La mode télévisuelle est au classement. Le petit écran nous abreuve d'émissions les plus délirantes de classements bizarres. Il y a les classiques classements des plus belles chansons des années 80, 90, 2000, les classements plus historiques des événements les plus marquants du siècle, les classements plus glauques des meurtriers les plus célèbres. Enfin bref, que du bonheur. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas lancer un classement sur l'évangile de Marc? Et vous allez voir, ce n'est pas mal non plus. Je choisis donc de proposer le classement des questions et des actes les plus insensés en présence de Jésus. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, enfin chères paroissiennes, paroissiens, voici le classement des 5 questions et actes les plus insensés en présence de Jésus dans l'évangile de Marc. Numéro 5, une question des pharisiens. Ces pauvres pharisiens, souvent vus d'ailleurs par nous comme ceux qui sont insensés. J'en prends une au hasard. Notre loi permet-elle à un homme de renvoyer sa femme? Quelle question! Car en fait, les interlocuteurs connaissent la réponse de la loi de Moïse. C'est d'ailleurs à celle-ci que Jésus les renvoie. Et cette question est doublement insensée, car les pharisiens utilisent une situation douloureuse, la séparation de deux êtres, pour tenter de confondre Jésus. Numéro 4. Il s'agit d'un acte. Jésus arrive à Jéricho, juste avant d'entrer à Jérusalem, un homme aveugle se précipite vers lui en criant « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» L'entourage de l'homme le rabroue. « Tais-toi, laisse-le. Faites-le taire, il va déranger le maître. » Acte insensé. Mais Jésus l'entend et Bartimée, c'est son nom, recouvrera la vue. Numéro 3, une autre question, qui était l'évangile du jour, en fait, de dimanche dernier. Mais dimanche dernier, vous le savez pour ceux qui étaient là, nous avons, nous, partagé autour d'un texte de Paul, pendant toute une journée, où nous étions nombreux avec les enfants, les adolescents, les parents et paroissiens habituels. Alors, cette question de dimanche dernier, c'était la question du jeune homme riche à Jésus. « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» La question est bien malhabile. Comment peut-on hériter la vie éternelle comme on hériterait de génération en génération d'un bijou de famille ou d'une armoire? Il en est de même pour la foi. Mardi soir, nous avons eu nos rencontres judéo-chrétiennes et une de nos paroissiennes partageait avec nous cette réflexion. Comment peut-on dire « j'ai la foi » ? Qui peut posséder la foi comme on aurait en main un livre ou un joli collier ? Et à cette question aussi, Jésus répond de l'exigence de l'Évangile. Mais le jeune homme ne pourra pas y souscrire et repartira. Triste, nous dit le texte. Numéro 2. Un acte. Des personnes amenaient à Jésus des enfants. Et voilà que les disciples se mettent à les renvoyer. Cela nous paraît aujourd'hui tellement surprenant qu'on a de la peine à comprendre cette réaction. Alors c'est vrai que les enfants n'avaient pas la place prépondérante qu'ils occupent aujourd'hui dans une famille. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Mais tout de même empêcher des enfants de venir vers Jésus. Quelle drôle de réaction! Et Jésus, vous le savez, leur répondra à cette phrase célèbre, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Alors ça y est, nous arrivons à notre numéro 1. Roulement de tambour, le gagnant est, eh bien, la question de Jacques et Jean, vous l'avez compris, notre évangile du jour. Franchement, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Alors, on le sent bien, hein, dans la lecture du texte, ils ne sont pas très à l'aise avec ce qu'ils vont demander. On les imagine se tordre les mains, sauter d'un pied sur l'autre, préparer le terrain. Dis voir, Jésus, nous voudrions que tu fasses ce que nous allons te demander. C'est ce que Marie a lu. Mais tu ne te fâches pas, hein. Ça, c'est moi qui rajoute. Cela me fait penser à un enfant quand il demande tout gêné à son parent. J'ai quelque chose à te demander, mais je sais que tu vas dire non. Je vis ça à la maison très souvent. Alors, on a envie de répondre, bah, écoute, si tu le sais, ne me le demande pas. Et pourtant, il demande quand même après. Hein. Alors, voilà donc cette question insensée des disciples. Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Incroyable. Surtout qu'en fait, les deux disciples, en faisant cette demande, réclament plus que des places d'honneur. Symboliquement, siéger à la droite et à la gauche de Dieu signifie leur volonté de participer au jugement dernier, avec Dieu. Ni plus ni moins. Alors voilà donc ce classement qui se termine sur ce sommet de prétention des deux disciples. Alors peut-être que ce qualificatif insensé que j'ai utilisé pendant ce début de prédication vous a peut-être agacé. Comment, moi, puis-je me permettre d'avoir un jugement de valeur sur ces actes et sur ces paroles? Mais avouez-le quand même, la question des pharisiens, le rejet de la veuve Bartimée, la demande d'héritage du jeune homme riche, la volonté d'arrêter les enfants, la question de Jacques et Jean sont vraiment insensées. Jamais, moi, si je me trouvais en face de Jésus, je ne poserais de telles questions et aurais de telles réactions, jamais. Verset 41. Quand les 10 autres disciples entendent cela, ils se mettent en colère contre Jacques et Jean. Tiens, ma réaction ressemble un peu à celle des 10 disciples. Je m'indigne des actes et des paroles des autres, de mes frères et de mes sœurs. Réécoutons la réponse de Jésus au jugement des 10. Vous le savez, dit Jésus, ceux qu'on regarde comme les chefs des peuples les commandent en maître, et les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne se passe pas ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. Aïe, aïe, aïe. Douloureux comme réponse. Cela ne se passe pas ainsi parmi vous. Méfions-nous des jugements sans appel. Méfions-nous de celles et ceux qui se disent supérieurs en s'indignant, en s'étonnant des paroles et des actes d'autrui. Cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous, dit Jésus. Frères et sœurs, on appelle cela l'amour fraternel. Alors est-ce une valeur tombée dans la désuétude? Pourtant c'est la chèvre de la vie chrétienne. Permettez-moi de vous lire quelques mots d'une lettre de frère Jean-Pierre, un des deux survivants du massacre de Tibérine en Algérie. Plus nous nous approchons du sommet de Dieu, plus nous nous rapprochons aussi les uns des autres. Et réciproquement, plus nous nous rapprochons les uns des autres par l'amitié, le respect, la bienveillance, plus nous nous rapprochons de Dieu. L'amour fraternel est un puissant levier pour sauver le monde. Je vous souhaite cela à tous dans vos relations, dans votre milieu de vie, quel qu'il soit, dans votre vie de couple, de relations avec des gens d'autres cultures. Formez ainsi des écoles de divine charité, inspirées du même esprit, de la même invincible espérance. Car c'est l'avenir de notre monde. Au jugement rapide, ces quelques mots et ce que Jésus nous dit, c'est qu'il oppose l'humilité, le service de l'amour. Au jugement rapide, Jésus oppose l'humilité et le service et l'amour fraternel. Alors, s'il ne s'agit pas d'une réaction bénie oui-oui, de résignation et d'ouverture béate, mais il s'agit d'un geste d'acceptation de la nature humaine des autres, et aussi, surtout, de notre propre humanité. Jésus nous invite à un travail incessant sur soi-même, dans l'acceptation de notre faiblesse devant Dieu par sa grâce, en nous faisant serviteurs de tous. Bien voyez, finalement, ensemble, nous venons de trouver un autre qualificatif pour notre classement. Ce ne sont plus les 5 questions et les actes les plus insensés, mais les 5 questions et les actes les plus humains devant Jésus. L'humanité des pharisiens, concurrencée par Jésus dans leur leadership religieux sur Israël et qui essaie de le piéger pour pouvoir le mettre à mort, se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 10, les versets 1 à 12. L'humanité des hommes et des femmes qui cherchent à empêcher Bartimée de déranger Jésus par ses cris, en essayant de cacher la misère de l'obscurité humaine, nous la lisons en Marc 10, les versets 46 à 52. La demande du jeune homme riche, renvoyée à son humanité mercantile, est rapportée dans l'évangile de Marc au chapitre 10, les versets 17 à 31. Le trop-plein d'humanité des enfants, l'enthousiasme des enfants bloqués dans leur élan par l'humanité du paraître des disciples, est raconté en Marc 10, 13 à 16. Et notre question des disciples, pleine de l'humanité de ceux qui souhaitent avoir un rôle et une place dans leur vie, nous l'avons entendu ce matin en Marc 10, 35 à 45. Vous venez de l'entendre, toutes ces histoires sont dans le chapitre 10 de l'évangile de Marc. Alors, recontons. Les pharisiens, versets 1 à 12. Les petits-enfants, versets 13 à 16. Le jeune homme riche, versets 17 à 31. La question de ce matin, versets 35 à 45. Et la guérison de Bartimée, 46 à 52. Et bien voilà, nous sommes au complet. Au complet ou il manque quelques versets? Il en manque 3. Entre le jeune homme riche et le texte du jour, les versets 32, 33 et 34. On va vérifier, nous avons peut-être manqué une autre question idiote, humaine. Alors voyons voir, 32. Jésus et ceux qui le suivent sont en route et montent à Jérusalem. Jésus marche devant eux. Ses disciples sont effrayés et ceux qui les accompagnent ont peur. De nouveau, Jésus prend avec lui les 12 pour leur parler et se met à leur dire ce qui va bientôt lui arriver. Écoutez, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme va être livré aux chefs des prêtres et aux maîtres de la loi. Ils vont le condamner à mort et le livrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux-ci vont se moquer de lui, ils cracheront sur lui, le frapperont à coups de fouet, puis le feront mourir. Mais 3 jours après, il se relèvera de la mort. Eh bien, la voici. La voici notre bonne nouvelle pour ce matin. Sur le chemin de nos peurs, de nos inquiétudes, sur le chemin de notre humanité, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Une parole de vie offerte à notre humanité au cœur de ses souffrances. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le frapperont à coups de fouet et le mettront à mort, et après 3 jours, il se relèvera de la mort. Voilà encore ce matin pour nous le message libérateur de l'Évangile, donné et porté en Jésus le Christ. Chacune de nos vies est un chemin, rocailleux, sombre, accidenté, long, pénible, boueux, injuste, mais aussi bien sûr avec ses accalmies de joie, d'amour, d'espérance et de pur bonheur. Mais notre chemin est toujours humainement hanté par des questions insensées et sans fin. Et sur ce chemin, Jésus a marché lui aussi. Et il est allé au bout de l'absurdité humaine pour qu'enfin nous ayons la vie pour toujours et qu'elle soit donnée à chacun gratuitement et en abondance. Ce Jésus est ainsi pour celle et celui qui reçoit cette parole de vie, le Christ, le Sauveur, le Seigneur. Celui qui, sur chaque chemin humain, offre l'espérance et la promesse de paix et de plénitude à venir. Il est celui qui donne la vie, pour toujours. Amen.